Le monde est petit, hein, Madame Pinchot?
C'est épouvantable.
Ouais, 10h24, là-bas, c'est ça. Tout le monde se connaît. Quel plaisir qu'on a. Puis d'ailleurs, on va commencer comme on doit commencer. On a lu un article sur le site de Radio-Canada qu'on trouvait extrêmement pertinent. On parlait des services de sécurité incendie qui sont de plus en plus nombreux à utiliser un drone dans la région, dans les régions du Québec. On parle de la caméra thermique des drones qui offre une nouvelle perspective aux pompiers, des informations supplémentaires que les pompiers peuvent avoir, qui peuvent faire une différence énorme sur le terrain lors des incendies ou d'opérations de sauvetage. Et Audrey décide de se gâter, elle s'est dit « Tiens, je veux deux pompiers en studio, en uniforme, s'il vous plaît. »
Tu passes pas à côté de ça.
Et ça s'adonne que c'est des gars de la Beauce, où j'ai eu le plaisir de vivre pendant plusieurs années. Je m'ennuie de la Beauce quand vous avez pas aidé. J'ai eu le plaisir d'accueillir père-fils Frédéric Marcoux, qui est directeur adjoint du service incendie de Scott et son fils Thomas Marcoux, qui est pompier privé. Bonjour messieurs, content de vous accueillir en studio.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec le père. Vous êtes pompier depuis combien d'années?
Ça fait maintenant 30 ans que je suis pompier au service incendie de Scott.
Est-ce que vous avez toujours été à Scott?
Oui, moi j'ai toujours été à Scott. J'ai fait toute ma formation par contre pour devenir pompier.
À l'IPIC?
Non, ben à l'époque c'était pas l'IPIC. Là, c'était, moi je l'avais fait au campus Notre-Dame-de-Foy.
À Québec, oui.
Oui, durant quand il y a eu les fusions. Et puis c'était, moi c'est toujours dans le but d'en savoir plus puis d'être là. Comment dire, être à la coche là,
ouais.
le plus mm-hmm. possible.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans le métier de pompier?
Aider les gens. Moi, quand j'étais plus jeune, le moulin assis derrière la maison de mes parents avait brûlé. Puis j'avais vu les pompiers en activité à ce moment-là. Là, on est loin dans le temps. Puis ça m'avait fasciné. Puis après ça, ouais, aider les gens, puis toujours...
Puis à un très jeune âge, vous le saviez, vous vous êtes dit, moi, ce que je veux dans la vie, c'est être pompier.
Ouais. Pompier à temps partiel. Ouais,
pensez-vous un jour que vous allez avoir un enfant qui allait avoir le désir d'être pompier?
Jamais.
Jamais.
Jamais. Ça, c'est comme un rêve. Mais,
puis votre gars Thomas, il vous a fait part à quel âge qu'il voulait devenir pompier?
J'ai envie de vous dire que quand il a eu son premier drone, on a vu un intérêt encore plus
marqué.
Oui, tout à fait. Mais il a fait justement un travail il n'y a pas longtemps avec l'université. Puis. Il a montré quelque chose que, oh, OK, non, ça fait plus longtemps que ça, mais moi, ce que je voyais, c'était vraiment cette période-là. Là,
OK. Thomas, toi, ton éveil d'être pompier, ça a commencé quand? Ton père, es-tu au courant de tout ça, là?
À vrai dire, l'éveil, c'est venu comme par la bande.
OK.
J'ai eu vraiment un intérêt pour utiliser les drones pour aider les services d'urgence en premier, puis par la suite, c'est par la bande, j'ai fait, okay, je peux devenir pompier, c'est le fun.
Les drones sont arrivés comment dans ta vie?
À vrai dire, je me suis acheté un drone consumer, qui appelle. Donc, un drone pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, je me suis mis à voler pour le plaisir.
Uh-huh.
Ensuite, j'ai été invité par justement Service Incendie de Scott à venir prendre des images pendant des pratiques.
OK.
Puis, ils ont tellement aimé le résultat. Ensuite, j'ai été invité à venir pendant des interventions. Donc, prendre des images pour les archives et tout. Puis c'est là que j'ai eu le déclic, puis j'ai vu que ça pourrait être utile. Là,
Il y a peut-être un marché là, mais de deux, je peux vraiment aider les gens avec
c'est ça. C'est en plein ça, oui. Puis aussi, là, moi, lui que j'avais, il n'était pas équipé d'une caméra thermique, donc c'est un drone vraiment régulier qui filmait avec une caméra normale. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des recherches et voir que ça existe ailleurs. Puis ce qui se fait ailleurs, c'est plus performant, donc on pourrait amener ça ici. Puis
Ton cours de pompier, tu l'as fait où, à quel endroit?
Je suis présentement en train de le faire.
OK.
Donc, c'est la manière dont ça fonctionne, c'est vu que nous, on est en Beauce, plus petite population, c'est le cours pompier 1. Donc, c'est pas comme exemple au CNDF ou quoi que ce soit. Là. Ça se donne le soir de fin de semaine.
OK.
C'est ça.
Tu veux-tu quand même garder ce travail-là que tu as de travailler avec le drone tout le temps? Ou un coup que tu as terminé ton cours, tu as peut-être envie d'être dans des interventions à part entière, je vais dire?
À vrai dire, la manière ça fonctionne, moi, c'est certain que je veux garder le drone. Mon but principal, c'est de continuer à offrir ce service-là que j'adore, puis c'est justement ça qui m'a donné la piqûre pour le côté incendie. Puis la manière, c'est qu'en ayant ma formation, quoi que ce soit, du moment que le drone n'est plus nécessaire sur l'intervention, on tombe comme des pompiers.
Okay.
Ça veut dire qu'on a quand même on aide là, la population quand même.
Quand même en intervention.
C'est en plein ça, donc on a quand même le contact direct. Là.
Puis là, tu parlais tantôt que, bon, l'idée t'est venue en faisant des recherches et tout. Est-ce que t'es comme dans les premiers à offrir ce service-là? Parce que moi, je vais être bien honnête, puis c'est peut-être aussi un manque. Mais j'avais jamais pensé à quel point le drone pouvait être utile dans ce genre. Tu sais, les drones, c'est plate à dire, mais quand ils sont dans l'actualité, là, c'est parce qu'il y a de la drogue qui se passe à Donnacona. Là. Fait que t'as pas le réflexe de penser que ça peut être super utile en cas d'incendie. Comment ça s'est passé de ce côté-là?
Au Québec, au Canada en tant que tel, c'est encore vraiment pas démocratisé. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, ou s'il y en a, ça va être des services d'urgence ou des services incendie en tant que tel qui vont s'être équipés. Donc, c'est au privé, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Ailleurs, aux États-Unis, principalement dans le sud, dans le coin du Texas, c'est extrêmement démocratisé. Quasiment tous les services d'urgence en ont, police, pompiers, sont tous équipés.
Parce que quand on lit le reportage, puis quand on regarde le reportage qui a été fait sur vous autres, on voit à quel point c'est hyper utile pour les pompiers. À un moment donné, tu as pu avertir les pompiers qui étaient directement en théâtre de guerre. Là. C'est, les gars, vous arrosez pas à bonne place, vous arrosez l'autre côté. Est-ce que c'était une grange? En tout cas, bref, l'autre côté du bâtiment. Fait que les gars, avec la fumée qui est extrêmement dense, ils pensaient qu'ils étaient en train d'éteindre le feu. Non, non, ils envoyaient juste l'eau l'autre côté du bâtiment. Et c'est toi qui les as ajustés?
C'est en plein ça. Puis même si on veut aller encore plus loin que ça, sur une autre intervention qu'on a eue, les pompiers n'étaient pas dans le bon secteur. Ça veut dire qu'ils n'intervenaient pas sur le bon secteur du bâtiment pour la seule unique raison que la fumée sortait par là. Puis ensuite, avec la caméra thermique, c'était possible de voir que, OK, les gars, vous êtes 100 mètres trop haut.
La source de chaleur n'est pas là.
Elle n'est pas là du tout. Ils ont changé l'échelle stationnaire. Donc, sur le véhicule incendie, ils l'ont changé de place complètement. Les gars ont intervenu, ils ont ouvert le mur, puis c'était direct là.
Fait que là, de ce que je comprends, c'est pas le service incendie, par exemple, qui s'achète un drone dans votre cas en Beauce. C'est vraiment, ils font affaire avec toi. Pour quelle raison? C'est quoi le côté positif, je vais dire, de ça? Là?
Le coût. C'est certain que vu qu'on est des plus petites municipalités, les budgets sont plus petits. Puis moi, premièrement, au début de tout, quand que j'ai commencé à faire les recherches et que je proposais là, le projet en tant que tel, j'avais approché tous les chefs de la MRC de la Nouvelle-Beauce pour voir si ensemble, ils ne voulaient pas se mettre en commun puis en acheter un et que je pilote pour eux.
Thomas, t'as été extrêmement proactif puis je te félicite parce qu'il y a des gars qui auraient abandonné. « Ah, ils voulaient pas de moi, ben c'est correct, je vais faire d'autres choses. » Toi, t'as poussé. Puis tu as obtenu la permission de le faire, puis en plus, ils te payent pour le faire. Félicitations pour ça. Monsieur Marco, vous vouliez ajouter quelque chose?
Bien, je voulais ajouter que dans notre réalité à nous, les pompiers temps partiel, c'est difficile de recruter. Fait qu'imaginez que nous, on prend un pompier qui est en opération et qu'on le fait piloter un drone pour donner, oui, ça va nous aider, mais sauf qu'on perd une paire de bras. Mm. Fait que nous, là, ben, lui, il sert, mettons, comme c'est là, à peu près 7-8. Peut-être plus même.
Mais on aurait fait une cinquantaine de ce que j'ai
vu. D'appels, oui. Ouais. Mais point de vue service incendie qui couvre. Donc, 15, bon. Fait qu'avec une quinzaine de services incendie, vous imaginez là, que les 15 municipalités ont chacun un pompier qui pilote un drone. Ben, vous venez d'enlever 15 pompiers.
Exact.
Et quand on intervient, ben nous, c'est l'entraide extérieure qui vient nous aider et vice-versa. On va souvent en entraide aussi.
C'est combien, hein? Parce que là, je vois que tu dis qu'il sauve des coûts. Ça peut valoir combien, mettons, l'achat d'un drone pour une municipalité? Puis c'est quoi la différence avec ce que toi, tu es capable d'offrir?
L'achat du drone en tant que tel, c'est certain que ça varie sans beaucoup. Il y a des gammes là-dedans, pareil comme dans tout, comme dans les véhicules ou quoi que ce soit. L'entrée de gamme, vraiment dans le thermique, le plus bas de gamme, juste le drone, une télécommande, that's it, on est aux alentours d'une dizaine de mille.
Okay.
Ensuite de ça, si on veut rajouter des batteries pour être capable de toffer le temps de l'intervention, qui peut durer des fois 12 heures, là, ça peut monter aux alentours de 20-30 facilement.
Fait que ça vaut plus la peine, rendu là, de faire affaire avec une entreprise directement. Toi, ton entreprise, c'est Drone Optique, hein, si je me trompe pas.
C'est en plein ça. Donc, Drone Optique avec un cas. Puis oui, c'est nous, vu qu'on a acheté l'équipement, on a également toutes les maintenances qui doivent être effectuées. Là, j'ai pas le nombre d'heures, là, mais à un certain nombre d'heures de vol, il faut effectuer des maintenances. Nous, c'est tout fourni. On est tous déjà formés parce qu'il faut également avoir les certifications avancées et tout.
Transport Canada.
C'est en plein ça. Ouais.
T'as-tu des permissions à demander avant de mettre ton engin en vol?
Avant, tant que t'es dépendant des zones, nous, c'est tel que tel. Dans les zones qu'on a, puisque c'est des plus petits aérodromes.
Ouais.
Donc, les permissions, j'ai déjà une dérogation en tant que telle là, qui me permet de voler pas mal partout.
Tu peux aller jusqu'à combien de pieds à peu près?
Légalement, 122 mètres, fait que c'est 400 pieds.
OK.
Ouais. Ça, c'est de manière légale. Ensuite de ça, si on veut aller plus haut, c'est 122 mètres à partir du sol. Donc, s'il y a une montagne, c'est 122 mètres à partir du top.
Okay.
Okay. Ça va suivre le sol vraiment tout le temps. Si ensuite de ça, on va aller plus haut, ça prend un COAS, donc une certification d'opération aérienne spécialisée, qui va aussi permettre là, d'aller chercher d'autres
choses. Ça va-tu bien loin, cette affaire-là?
On est obligé toujours de voler à vue. Donc, pour rester légal, c'est certain qu'on est capable, avec les communications radio, donc par les interventions incendie ou de recherche sauvetage, avec les communications radio bidirectionnelles, la personne qui peut voir le drone et qui est capable de communiquer avec nous compte comme un observateur visuel. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Puis la portée en tant que telle du drone testé, c'est 10 km.
Pluie, neige, il n'y a pas de problème avec les drones?
Lui que je suis équipé, malheureusement, c'est l'ancienne génération. Donc, il est non résistant.
Okay.
C'est certain qu'on a volé dans des conditions qui n'étaient peut-être pas favorables pour des interventions de recherche et sauvetage. Mais à date, non, j'ai pas eu de problème. Sinon, les nouveaux qui sont sortis sont IP55.
Puis les vents, est-ce que c'est un gros facteur pour voler pour vous autres? Parce que dans l'aviation, c'est un facteur très important.
C'est pas... agréablement surpris de la résistance au vent. J'ai pas les spécifications exactes, mais non, c'est très résistant. Là. Il peut avoir des très grosses bourrasques, mais il est quand même capable de voler, puis il se stabilise extrêmement bien. Donc, il va garder sa position GPS.
Monsieur Marcoux, en ville, quand les incendies sont terminés, il y a quand même une équipe qui reste sur place pour surveiller les points chauds, puis arroser les points chauds et tout ça. Anciennement, la façon dont vous agissiez, c'était... on pense que c'est encore là, c'est encore chaud, ça fume un peu, on va arroser là. Avec cette nouvelle technologie-là qui vous permet justement de regarder du haut des airs les points de chaleur, c'est-tu plus rapide à éteindre?
Tout à fait. Ouais. Vraiment, on sauve beaucoup de temps. Là. Quand on parle justement d'un feu de bâtiment, que les murs sont toujours là, la toiture est brûlée, ben, avec le drone, on est capable de voir tous les points chauds. Ça nous évite là, de rester là justement à des heures et des heures ou de briser plus pour aller vraiment éteindre les derniers petits foyers là, qui pourraient rester. Et que avec l'échelle aérienne, avec les lances et tout, on est capable vraiment d'y aller précisément. Puis avec le drone, c'est merveilleux.
Ça doit sauver des coups puis de l'eau aussi,
temps,
j'imagine.
C'est du temps. Mettons, on a un incendie, on est 25-30 pompiers. Vous enlevez une demi-heure au bout du compte, ben ça fait beaucoup de sous. Fait que ça paye généralement... facilement l'intervention du drone. Fait que...
Puis est-ce que vous l'utilisez seulement pour les feux? Parce que j'imagine qu'éventuellement, on pourrait utiliser ça pour pas mal plus de... Ben oui.
Recherche-sauvetage. Nous, on est équipé nautique à Scott. C'est une branche qu'on a été chercher. Et puis, on pratique à tous les ans avec la rivière Chaudière. Quand le niveau, la crue printanière, souvent, on embarque à l'eau. Moi, je suis équipé. On embarque à l'eau, on fait des recherches. On fait des recherches soit avec les embarcations et le drone est là aussi pour supporter.
Pouvez-vous trouver du monde carrément?
C'est incroyable la différence thermique d'une personne qui flotte sur l'eau ou un bout de bois.
C'est un peu morbide là, ma question, mais même quand, mettons, c'est un corps tout simplement.
Un corps froid, vous froid, le voyez quand même.
Il va y avoir une différence thermique parce que la partie qui n'est pas immergée va donner une température différente.
Ah.
Si la partie immergée, là, vous verriez pas de différence parce que la partie immergée est à la même température que l'eau. Il y a des pratiques qu'on a fait en hiver, que j'ai été assez longtemps stationnaire en attendant les secours, que ma température de mes vêtements était tellement froide que c'était beaucoup plus difficile à voir. Mais généralement, il y a une empreinte thermique quand même qui va différer du reste.
Pour donner une idée, dans le fond, là, juste de ce que la caméra thermique peut voir, là, exemple qui fait moins 30 à l'extérieur, là, un simple pas dans la neige compressée n'aura pas la même température que le reste, on est capable de suivre une victime au pas. Littéralement, on est capable de voir toutes les traces avec le drone.
C'est vraiment pratique, là, ça vous sauve du temps, un petit pépère.
Oui, c'est
là.
Vraiment. Puis exemple, également, voler de nuit ou quoi que ce soit avec les services d'urgence, ça permet de voir les glaces sur la rivière. Fait que le Zodiac, Scott est équipé pour pas qu'il se mange des obstacles. Ça, nous autres, on est capable de le dire exactement en avant d'eux qu'est-ce qu'il y a, sans vraiment localiser la victime ou quoi que ce soit, pour eux autres les aider à se rendre à la victime.
Avec la médiatisation de ce que tu fais, Thomas, est-ce qu'il y a d'autres services incendie d'ailleurs au Québec qui ont appelé en disant « Bon, les Beaucerons font encore des affaires, là, puis ça a l'air de bien aller encore. » Fait qu'on va aller voir ce qu'ils font, puis on va essayer peut-être de reproduire ça dans notre municipalité. As-tu des gens qui t'ont approché, histoire d'être proactif? Là?
Pas vraiment. J'ai été approché, dans le fond, par d'autres compagnies qui, eux, fournissent des produits à certains incendies comme consultant, qui est un service qu'on offre. Là, si jamais vous voulez vous monter un projet d'unité de drone, on est capable de vous aider là, sans problème. Mais non, plus que ça, pas vraiment.
Puis ton grand rêve pour ton entreprise, là, ce serait quoi?
Augmentation d'équipement, augmentation d'équipe, puis couvrir une bonne partie du Québec qui, justement, n'a pas les coûts pour être capable, n'a pas les fonds pour être capable de s'équiper.
Est-ce que à long terme, parce que moi, j'ai vu ça, je sais pas si j'ai vu ça dans un film ou une nouvelle, là, mais j'ai vu un drone qui traînait un tuyau d'arrosage, une lance, en fait, c'est comme ça vous l'appelez. Là. Est-ce que ça, à long terme, on pourrait se doter de ça? Est-ce qu'un jour, tu pourrais prendre un tuyau, le faire voler au-dessus de tout, puis arroser toi-même?
C'est certain que ce que vous parlez, je crois, c'est de tout ce qui est pour nettoyage de vitres. Ça, j'en ai vu vraiment beaucoup qui arrosaient l'extérieur du bâtiment. C'est certain que nous, pour avoir la grosseur de tuyau que ça prend pour arroser, exemple, un 2 pouces et demi, c'est tellement lourd, ça n'a aucun sens.
C'est
là, même,
trop lourd.
Pour donner une idée, là, le drone en ce moment, le DJI Flycard 30 de qui est celui-là qui lève des charges, il lève 66 kg. Là. Puis une lance, c'est facilement le double.
Puis avec la pression, il reculerait.
C'est en plein ça.
C'est quoi de travailler ensemble là, comme père et fils?
C'est...
pas toujours facile?
Non, au contraire, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté. De voir ce qu'il fait, puis le résultat de tout. Là, parce que quand on est sur une intervention, nous, on est habitué à la conventionnelle attaque, soit défensif ou après ça, des recherches. Mais avec ça, on vient de changer la donne beaucoup, beaucoup de facteurs là, dans nos interventions. Là. Et Thomas, ben, souvent, il est avec les directeurs ou les directeurs adjoints. Ben, que lui, il est au PC, il gère un peu. Bon, il y aurait ça ici, quoi, je vois, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Là.
Ah, c'est ça.
Lui, il donne ce qu'il voit, puis même qu'il est équipé d'une valise avec un écran que le directeur a à côté de lui. S'il veut voir quelque chose, il le fait venir ou il fait changer de place.
Parce que oui, on travaille ensemble, mais en même temps, on ne va pas être au même endroit sur l'intervention. Ouais. Souvent, vu qu'il est directeur adjoint, il va être un officier avancé. Donc, ça veut dire que lui, il va être plus dans l'intervention directement. Moi, je vais vraiment être en recul au niveau du poste de commandement pour les aider à prendre des décisions avec ce qu'eux voient. Puis, ce qu'il parle, c'est dans le fond, c'est une mallette. À l'intérieur, il y a un écran également avec un transmetteur qui est relié à ma mallette à moi. Ça veut dire que 120 mètres que je peux me déplacer autour du poste de commandement, puis les autres voient toujours en temps réel ce que le drone voit.
Ah oh ouais, hein?
Donc, ensuite de ça, je peux quand même aller dire à certains pompiers, parce que souvent, je me fais demander « Hey, tu peux-tu aller dire à tel gars qui reprend en ligne sa lance comme faut? » Fait que là, je m'en vais à côté de lui, je lui explique, puis ensuite, on regarde ça ensemble pour qu'il soit capable de rediriger sa lance directement vers le point chaud.
OK, parce que le pompier peut voir lui-même qu'est-ce qu'il est en train de faire.
C'est
même s'il y a de la grosse boucane.
Ouais, dans le fond, cool, moi je vais me déplacer, je vais aller à côté de leur équipe, puis c'est certain que là, il ne faut pas qu'ils soient dans la zone avec de la fumée et tout, parce que je suis pas équipé d'un apria, là. Donc ça va être de rester, les équipes qui sont plus en recul, souvent défensifs, ça va être d'aller les voir directement, puis lui montrer, regarde, ta lance, ta plat, redirige un peu, puis ils allaient comme ça.
C'est une question qui va avoir l'air tellement niaiseuse, mais je suis curieuse, parce que tu sais, nous autres, on est dans un studio de radio tranquille, là, il se passe pas grand-chose, pas beaucoup d'action dans une journée.
On risque pas vraiment nos vies, à part quand on dit quelque chose de mal de Québec solidaire.
C'est ça. Mais les premières étapes, il y a une intervention, vous avez un appel. Est-ce que tu deviens la première étape de ces interventions-là? Comment ça fonctionne sur le terrain?
Ça dépend de toutes les municipalités. Chacune va avoir des protocoles différents. Exemple, avec la municipalité de Scott, c'est du moment qu'il y a un feu de résidence, un recherche et sauvetage, je me déploie. J'ai même pas besoin de demander si je décolle ou non, je me déploie. Et ensuite, du moment que le poste de commandement, s'il arrive après moi ou ça, il y a déjà une image de ce qui se passe en 360.
Okay.
Parce que c'est toujours demandé, c'est comme dans une règle non écrite en incendie. Du moment que la personne, que l'officier commandant arrive sur l'intervention, il doit faire un 360 du bâtiment. Ça veut dire qu'il doit marcher tout le tour du bâtiment pour essayer de saisir qu'est-ce qu'il y en a de l'intervention.
Fait que là, tu sauves ce temps-là aussi.
Sans plein ça.
Ou le temps va se faire quand même par le pompier, mais sauf qu'après, une fois que le PC est installé, il ne retourne pas lui faire le suivi.
Ah,
là.
Ouais.
Donc, avec le drone, lui, il a toujours le suivi.
Ouais.
C'est instantané, c'est à la seconde près.
Dans un bâtiment en feu avec ton drone, est-ce que tu es capable de voir qu'il y a des victimes à l'intérieur malgré les différences de chaleur?
Les différences de chaleur vont être trop marquées pour qu'on soit capable de voir une victime à l'intérieur. C'est certain que si la victime est vraiment plus froide en tant que telle, on va pouvoir le voir à l'inverse, dans le fond, de normalement, que c'est la chaleur qui nous permet de voir les détails et tout. Mais en tant que telle, non, malheureusement, on ne peut pas le voir. Du moins, je n'ai pas eu à le tester. Fait que,
ouais.
Dieu merci.
Oui.
C'est une bonne nouvelle.
On n'aime mieux pas.
Ouais, parce que veux pas, si on voit de la chaleur se déplacer, normalement, les immeubles ne se déplacent pas.
Ouais.
Si on voit de la chaleur se déplacer, on sait qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce coin-là.
S'il t'en plaît, ça, ouais.
OK. Monsieur Marcoux, tantôt, vous avez dit que c'était de plus en plus difficile de recruter des pompiers. Il y a des pompiers volontaires aussi. En Beauce, ça fonctionne comment, le service des incendies? Est-ce que c'est tous des pompiers temps plein?
Non, négatif. Il y a juste la ville de Sainte-Marie qui a quelques temps plein. Puis le restant, c'est tout du temps partiel partout.
Donc, puis qu'est-ce que ça prend pour être pompier de temps partiel?
Ça prend quelqu'un qui veut. Ça
ah ouais?
Ça prend du monde qui ont de l'intérêt puis qui sont dévoués, là, parce que... appliqué comme pompier à temps partiel, il y a les formations, les pratiques.
Ouais.
C'est un nombre d'heures, c'est 4 heures par mois obligatoire, plus le...
Tout est rémunéré, par exemple. Là. Donc,
ouais,
c'est rémunéré de A à Z par les services incendie.
Exact. Mais c'est ça. Donc, c'est difficile. Puis comme vous disiez tantôt, ben, les nouvelles générations, des fois, c'est un petit peu plus dur d'aller les chercher.
Ouais,
pour ce qui est physique ou ce qui est... le travail de drone, ça, éventuellement, je pense qu'il va y avoir peut-être plus d'applications.
Ouais. Mais c'est fou comment les choses ont changé, Audrey. Moi, quand j'étais à la sortie de mon secondaire, bon, j'avais appliqué pour l'IPIC. J'avais passé mes tests physiques et tout ça. Puis finalement, ben, c'était plus d'autres choses qui m'intéressaient. Puis je travaille dans ce domaine-là aujourd'hui. Fait que je suis très heureux. Mais n'en demeure pas moins que c'était un métier qui était extrêmement valorisé. Puis encore aujourd'hui, c'est extrêmement valorisé, mais les gens qui se disent « Oh boy, t'as peu là, passé beaucoup de temps à caserne, tout ça, c'est de plus en plus difficile. » Moi, j'avais regardé, parce que je voulais travailler à Québec, puis je jasais avec le service des incendies de Québec, puis les gars disaient « Ben, il y a une liste d'attente, puis si ton père n'est pas là, si ta mère n'est pas là, tu vas demeurer dans l'attente.
Ouais. »
Puis aujourd'hui, on entend de plus en plus des services d'incendie qui disent « Non, non, nous autres, on veut faire du recrutement. On a besoin de nouvelles recrues. » Donc, vous dites que ça prend des gens qui veulent en maudit là, pour être des pompiers volontaires. Faut-tu travailler quoi à 50 km, moins de 50 km de la caserne?
On n'a pas ces restrictions-là. On n'a même pas... on peut même pas exiger ça parce que... Les exigences, c'est d'être au moins disponible pour les pratiques, les formations, d'être là à au moins, je crois que c'est 60% de présence là, durant l'année. On a déjà remercié les pompiers parce que justement, ils étaient pompiers pour disponible. Être pompiers, mais pas disponibles.
Ben, ça passe mieux auprès des filles quand on dit qu'on est pompier.
Oui, c'est ça. Il fait le calendrier. Hein. Le calendrier, mais c'est bien populaire.
Faut pas oublier qu'il faut travailler.
Parce
que le candidat idéal, c'est un agriculteur qui est sur sa terre, qui est capable de se libérer assez souvent. C'est un travailleur autonome.
Vous allez recevoir des rushs. Les agriculteurs,
ouais, parce qu'ils peuvent
se libérer,
pas quitter leur terre. Là.
Ouais, pas toujours. Ils peuvent partir 2-3 heures. C'est quand ils ont une équipe en place.
Tout à fait, mais souvent, c'est des fermes familiales. Donc, ils sont seuls, ils n'ont pas d'employé ou ils ont un employé, donc il faut qu'ils soient là. Mais les agriculteurs, ce sera toujours nos meilleurs. Là. C'est du monde qui...
Ils sont habitués de travailler.
Ils sont habitués de travailler, ils savent comment ça fonctionne. On les explique une fois, puis c'est parti. Mais on a des excellents pompiers dans différents... on couvre tous les métiers, là. Moi, je suis électricien là, à la base. Il y en a d'autres qui ont fait de la carrosserie toute leur vie. Il y en a d'autres que mécaniciens, des gars qui ont travaillé pour Vidéotron, des choses comme ça. Il y en a plein. On touche à tout, puis c'est la disponibilité. Là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Les jeunes familles maintenant.
Puis le minimum d'études qu'il faut avoir, c'est secondaire 5?
Oui, secondaire 5 avec le cours pompier 1 pour au moins avoir la base pour pouvoir intervenir sur l'intervention.
Le cours pompier 1, est-ce que c'est les villes qui les donnent maintenant?
Oui, comme nous, c'est dans la MRC. C'est la MRC de la Nouvelle-Beauce qui donne la formation pour nos pompiers.
Puis à chaque année, il y a des gens qui prennent ce cours-là dans l'espoir de devenir pompier volontaire. Okay, c'est le fun.
Oui.
Puis dans le fond, au niveau de comment ça fonctionne également, parce que je suis en train de le faire, quoi que ce soit, contrairement, exemple, en ville ou quoi que ce soit, le taux de placement est...
Et bon.
Assuré. Parce que du moment que vous avez la formation, vous êtes dans le service incendie. Vous pouvez déjà être même pompier avant. Puis c'est juste que vous n'avez pas la formation encore, donc vous allez le considérer comme un vert. Fait que vous allez rester en retrait, mais vous pouvez quand même être sur l'intervention. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller parler en caserne au directeur adjoint de vous informer. Puis c'est certain qu'il serait probablement partant à vous prendre dans l'équipe là, si ça vous intéresse et si vous avez le vouloir pour le faire.
Ça a été un plaisir, messieurs, de vous recevoir. Thomas, juste nous répéter le nom de ton entreprise, parce qu'à un moment donné, s'il y a des gens qui nous entendent qui veulent te rejoindre, il faudrait que ce soit facile.
Yes, c'est Drone Optique avec un K, donc OPTIK. Puis c'est ça.
Pompier privé, Thomas Marcoux, merci d'être passé. Frédéric Marcoux, directeur adjoint du service incendie de Scott, merci d'être passé. Puis dites cela à la gang. On se connaît peut-être un peu toute la gang aussi.
Puis merci pour ce que vous faites aussi, vraiment. Là.
Merci.
Merci. On fait une pause, on vient. Gravel, dans le retour.